Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je vais d'abord vivement remercier Molly de me donner l'occasion d'être ici. C'est évidemment un grand honneur d'être dans ce lieu prestigieux. En fait, je ne veux pas dire la boucle est bouclée parce que je ne me sens pas âgé à ce point-là, mais en 1984, quand jeune vétérinaire et débutant en génétique, en fait, je rentrais en génétique. Je venais visiter le Collège de France, à l'époque où Jean Dausset, en fait, était encore ici. Il y avait Marc Latrope et Jean-Marc Lalouel. Et je venais travailler ici des nuits entières pour découvrir Paris-Sévéan à 5 heures. Donc ça rappelle de bons souvenirs. Alors, je suis vétérinaire de formation et une bonne partie de ma carrière de généticien, je l'ai consacrée à des animaux quadripèdes, dans cela compris les bovins. Et je vais vous raconter un certain nombre d'observations que nous avons faites au cours des dernières années en étudiant le processus dont Molly nous a parlé avec brio chez ces ruminants. Et forcément, comme toujours, ce sont des travaux qui se font en équipe et les personnes qui ont contribué le plus sont représentées dans cette DIA. Alors, simplement, pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, donc, la définition opérationnelle d'une mutation de novo, du moins comme je me la définis à moi-même, c'est un variant qui est présent dans un gamète qui est produit par un individu et qui n'était présent ni dans le spermatozoïde ni dans l'oocyte qui, en fusionnant, ont donné naissance à cette personne. Et comme l'a dit Molly, c'est évidemment un phénomène biologique qui est d'une importance fondamentale, qui trouve son origine, on vient de décrire tout cela avec beaucoup de détails, soit dans des problèmes réplicatifs, probablement, comme le disait Molly, ce qu'on lit dans la majorité des textbooks, mais également des processus de dégradation qui sont dépendants, disons, du temps et qui ne sont pas directement liés à la réplication. Il y a une variation assez importante au sein des populations, donc on vient de le voir, le sexe, l'âge joue un rôle. Les différences peuvent être quantitatives comme elles peuvent être qualitatives. Et simplement, un mot sur ce que j'appelle ici, à tort ou à raison, adaptation et adaptabilité. Donc, c'est le fait que l'on peut s'intéresser au processus de taux de mutation comme étant éventuellement un phénotype qui est lui-même sujet en fait à une sélection darwinienne. Et simplement le résultat de quelques réflexions dans ce sens-là. Donc en fait, on peut s'amuser à faire des simulations avec des modèles qui, simplifiés de façon outrance, comprennent des gènes mutateurs qui vont agir sur eux-mêmes et qui vont également agir sur les autres gènes dans le génome, dont certains vont déterminer le phénotype qui est sujet à la sélection darwinienne. Et ces deux types de gènes peuvent ou non se retrouver sur les mêmes chromosomes, être transmis de façon liée. Et donc, en fait, ici, on essaie de résumer les conclusions principales de quatre scénarios. Donc, d'une part, le taux de recombinaison entre ces gènes est soit existant, soit il ne l'est pas. Et d'autre part, en fait, l'environnement est un environnement où la sélection va toujours dans le même sens, ou bien un environnement où la sélection est changeante. Et donc, d'une façon générale, ce qu'on observe, c'est que dans la majorité des scénarios, la sélection pousse vers un taux de mutation qui est absolument minimal, et la limite de la sélection est souvent déterminée par l'effectif efficace de la population. Donc, à un certain moment, quand celle-ci est trop petite, la dérive génique fait qu'il y a une limite au taux de mutation qui est atteint, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à le faire baisser en deçà d'une certaine limite. Donc, ça semble indiquer que dans la majorité des scénarios que l'on envisage de façon simpliste, eh bien, ce qui est le plus avantageux ou ce qui semble être le plus avantageux serait un taux de mutation minimal. Mais en fait, on voit que quand l'environnement est changeant, et à condition que la recombinaison entre le mutateur et le gène qui détermine le phénotype existe, eh bien, en fait, on peut aller vers un taux de mutation optimal qui, quelque part, je l'interprète de cette façon-là, permet à la population de mieux répondre dans un environnement dont on sait qu'il sera changeant. Tout ça pour dire qu'en fait, on s'intéresse forcément à ce phénotype pour toute une série de raisons, mais pourquoi pas essayer de comprendre quel est le degré de variation qui existe dans la population en général et si cette variation a une nature héréditaire, de telle sorte que cela pourrait éventuellement devenir un substrat pour la sélection. Donc ce sont des choses qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être fortement étudiées, en particulier chez les mammifères, donc pourquoi pas se poser cette question. À nouveau, comme l'a dit Molly, l'information que l'on a quant au taux de mutation dans les différentes espèces était initialement, jusqu'à relativement peu de temps, le fruit de recherches indirectes qui consistaient par exemple à comparer des séquences entre espèces. Et avec l'avènement du séquençage à haut débit de nouvelles générations, on peut maintenant, comme l'a dit Molly, essayer de mesurer ce taux de mutation par séquençage direct dans des familles. Alors je vais représenter moi des organismes comme des triangles pour essayer d'illustrer le fait que donc on démarre avec peu de cellules et qu'on a une espèce d'amplification par division binaire et que dans l'organisme que nous sommes, si je puis dire, notre soma, il y a une sous-population de cellules que je crois on peut qui émergent quelque part de cellules somatiques, de plusieurs cellules somatiques à un certain moment et qui constituent la lignée germinale dans laquelle vont éventuellement apparaître des mutations. Alors, je reprends le même schéma expérimental que celui que Molly nous a montré, c'est ce qui a été fait au cours des 10 dernières années ou les 15 dernières années dans ces efforts d'estimation directe du taux de mutation. On séquence des trios, donc des parents et un enfant, et on cherche des choses qui sont présentes dans l'ADN de l'enfant et qui ne sont pas détectées dans l'ADN des parents. C'était quelque part la définition opérationnelle de ces mutations de novo. Alors, si on a la possibilité, on essaye d'avoir une génération supplémentaire qui va nous permettre de voir si cette mutation est bien transmise à la génération suivante, qui va nous permettre de différencier des mutations qui ne seraient que somatiques de mutations germinales. Un avantage supplémentaire de ce dispositif, s'il est disponible, c'est que l'on va pouvoir assigner les mutations soit à, j'ai envie de dire, la lignée germinale paternelle, soit la lignée germinale maternelle. Donc, en l'absence d'une génération supplémentaire, pour une partie des mutations, on peut déterminer cette origine si la séquence dans laquelle on trouve la mutation a par chance un polymorphisme génétique, un allèle supplémentaire qui ne serait présent que chez un des deux parents, ce qui nous permettrait d'assigner la mutation de novo, soit au père, soit à la mère. Mais c'est quelque chose qui est certainement pas la règle, c'est même une exception. Donc, ce qui est donc responsable de la difficulté que l'on peut rencontrer quand l'objectif est de déterminer alpha, par exemple, c'est-à-dire d'attribuer la mutation à l'un plutôt qu'à l'autre parent. Si vous disposez d'une génération subséquente, vous allez pouvoir suivre la transmission de la mutation et voir si elle se co-transmet avec l'homologue, le chromosome homologue qui vient du père plutôt que celui qui vient de la mère. Donc, c'est une façon, disons, plus robuste et générale d'assigner une mutation soit au spermatozoïde, soit à l'oocyte, en simplifiant un peu. Molly nous en a déjà parlé. Et donc, en faisant ça, on estime les taux de mutation dont Molly nous a parlé, avec, elle n'en a pas parlé cette fois-ci, mais une observation qui, je crois, elle nous dira, reste toujours un peu perplexante, si je peux utiliser ce néologisme, c'est le fait que les estimations directes et indirectes ne sont pas encore totalement réconciliées. Alors, par rapport à ce background, donc dans le monde bovin, nous nous sommes dit à un certain moment, pour toute une série de raisons qui étaient majoritairement pour des motivations d'application, de pratique, mais on s'est rendu compte qu'en fait, les généalogies, les pédigrés disponibles chez les bovins offraient un certain nombre d'opportunités pour l'étude des mutations de novo qui étaient probablement difficiles à mimer dans des populations humaines. Et donc, nous avons en fait collecté les échantillons d'un pédigré dont la structure peut être résumée de la façon suivante. C'est un peu comme si on avait un cercle avec une alternance de taureaux et de vaches, chacun de ces individus ayant deux partenaires et donc ayant un veau avec avec deux partenaires, nous permettant quelque part pour chacun de ces individus d'étudier au moins deux gamètes. C'est-à-dire qu'en fait, on va répliquer quelque part la mesure d'un phénotype chez ces individus, ce qui va ouvrir un certain nombre de possibilités. Et bien entendu, en fait, on peut facilement collecter tout le nombre d'individus que l'on veut pour la génération suivante, tel que je l'ai montré tout à l'heure, nous permettant d'assigner au mâle plutôt qu'à la femelle, confirmer que la mutation est bien germinale, etc. Alors, donc nous avons généré un pédigré qui comportait pas loin de 800 individus répondant à cette structure que nous avons séquencée à l'aide des méthodes nouvelles, nous donnant de l'ordre de 100-130 trios. Donc on a la possibilité dans cette étude d'étudier de l'ordre de 150 spermatozoïdes et 150 oocytes, chaque fois minimum 2 par parent. Alors, donc je reprends le schéma initial, et une des premières observations que nous nous faisions dans notre petit laboratoire vétérinaire, c'est que cette hypothèse d'absence de la mutation chez les parents avec présence à l'état hétérozygote chez le descendant était quelque chose qui ne correspondait pas, en fait, aux seules mutations que nous avions dans nos études rencontrées, que nous avions côtoyées en réalité. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ce qui ne coïncidait pas, c'était l'absence de mosaïcisme chez les parents. Donc, on peut se poser la question si cette hypothèse d'absence de mosaïcisme détectable est une hypothèse qui est réaliste. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut pour cela se remettre en tête, se remémoriser la saga de la lignée germinale. Donc, comment passe-t-on d'un zygote quelque part au gamète ? Et comme nous l'a dit tout à l'heure Molly, donc il faut un certain nombre de divisions entre le zygote et les oocytes d'une part, et entre le zygote et les spermatozoïdes chez les mâles d'autre part. Alors, donc si je représente, et le schéma n'est pas particulièrement élégant, mais il se veut être le triangle que je vous ai montré tout à l'heure. On démarre avec une cellule, qui en deviennent deux, qui en deviennent quatre, huit, etc. Donc imaginons cette version la plus simple possible de l'organisme. Et quand on a ce genre de triangle et que l'on se dit le processus de mutation des nouveaux est dépendant des réplications, et que quand on se dit où ont lieu la majorité des réplications dans un triangle comme celui-là, il est vrai que l'immense majorité des réplications ont lieu au cours des toutes dernières générations. Donc on pourrait quelque part se dire, puisque toutes les réplications sont concentrées lors des dernières générations, l'hypothèse d'absence de mosaïcisme est tout à fait raisonnable. Et je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment que c'est peut-être en particulier ce raisonnement-là qui pousse les personnes qui ont mis en place ces protocoles expérimentaux à le considérer comme raisonnable. Mais le raisonnement devrait peut-être être légèrement différent, et se dire, quand je collecte que ce soit un oocyte ou un spermatozoïde, celui-ci est le fruit d'un certain nombre de divisions cellulaires. Des mutations, on le sait, apparaissent dans cette lignée cellulaire. Il faut peut-être simplement dire, a priori, je vais considérer qu'elles peuvent tomber lors de n'importe quelle génération et dans quelle proportion des cas, puis-je m'attendre à un taux de mosaïcisme détectable? Alors, le taux de mosaïcisme ne sera détectable que si la mutation a lieu très tôt dans le développement. Donc, dans ce schéma, je le sais, ultra simplifié, si la mutation a lieu lors de la première génération, 50% de votre cellule, c'est-à-dire 25% quelque part de l'ADN devrait porter la mutation. Et puis, en fait, le pourcentage diminue. Et si on se dit, je peux détecter jusqu'à 5%, eh bien, ce n'est vraiment que lors des toutes premières divisions cellulaires, ce n'est que si les mutations ont lieu lors des toutes premières divisions cellulaires que le mosaïcisme pourrait être détectable. Alors, les nombres ici sont légèrement différents. Je les ajusterai par rapport à ce que Molly nous a donné. Donc, ça devrait être 32 d'après le schéma de Molly, et ici ça varie en fonction de l'âge de l'individu. Mais donc, on se dit, tiens, ici, en admettant que les toutes premières divisions cellulaires sont des divisions qui vont donner du mosaïcisme, je pourrais m'attendre en fait à de l'ordre de 15% des mutations chez la femme, chez la vache, si je puis dire, qui soient mosaïques, alors que ce pourcentage est en effet très petit chez les mâles. Mais donc, quelque part, ça suggère, et je simplifie un peu, que le schéma proposé était un schéma qui était raisonnable, mais qui, en particulier du côté femelle, allait éventuellement mener à un certain nombre de pertes de mutations. Donc, ceci étant dit, dans notre vie de généticien vétérinaire, les seules mutations que j'ai rencontrées, des mutations de novo, c'était chaque fois des mutations pour lesquelles on avait un taux de mosaïcisme élevé chez l'individu chez qui la mutation s'était produite. Et donc, quelque part, ce qu'on s'est dit, dans ces cas-là, le schéma observé était un schéma où on détectait une mutation chez un individu qui était absent chez les parents, mais la réalité, c'était que la mutation ne provenait pas des parents, mais que cette mutation, en fait, était survenue lors du développement du descendant. Et donc, on s'est dit, tiens, quelles sont, en fait, les proportions des mutations qui sont détectées dans le schéma de détection habituel qui répondraient à ce schéma-ci plutôt qu'aux idées, j'ai envie de dire, préconçues. Alors, quelles sont les caractéristiques distinctives entre un schéma tel celui-ci et le schéma habituel? Eh bien, d'une part, en fait, vous ne vous attendez pas à ce que le ratio des allèles soit de 50% dans ce cas-ci, alors qu'il est supposé être de 50% si la mutation était bien apportée par un des gamètes. Et d'autre part, et là, c'est une notion, disons, plus génétique, mais facile à comprendre, si vous disposez d'une génération supplémentaire, la transmission de la mutation se fera bien avec un des homologues, soit le paternel, soit le maternel, puisqu'il faut bien qu'elle soit survenue sur un des deux chromosomes. Mais comme elle est survenue tardivement, admettons qu'elle ait lieu sur le chromosome paternel, tous les chromosomes paternels n'auront pas forcément la mutation. Et le terme que l'on utilise, c'est que la liaison génétique avec le chromosome paternel n'est pas complète, n'est pas parfaite. D'accord ? Donc on va pouvoir, dans la génération suivante, faire une étude de liaison génétique et montrer que si la mutation accompagne bien systématiquement le chromosome paternel dans cet exemple, on peut avoir dans la descendance un chromosome paternel sans la mutation. Alors, nous avons commencé avec une étude pilote, et je vais vous rapporter d'abord les résultats de cette étude pilote, avec des pédigrés qui sont faciles à trouver chez les bovins, moins faciles à trouver dans les populations parisiennes. Donc en fait, on a quatre générations ici, on a les quatre grands-parents, ou on a au moins une partie des grands-parents, des parents, le descendant dans lequel on cherche les mutations, sa descendance à lui qui va nous permettre de vérifier la transmission, mais on a assez souvent toute une série d'autres apparentés qui vont bien nous servir. Alors, on a séquencé ces individus et on a commencé par être de bons élèves, donc on a appliqué le processus traditionnel. Nous n'avons regardé que des mutations qui étaient absentes chez les parents, présentes chez le descendant, mais on s'est permis de faire cette étude de liaison génétique. Et donc on a commencé dans une famille où nous avions beaucoup d'individus de la dernière génération, de telle sorte que l'étude de liaison génétique était puissante, si je puis dire. Et sachez que le mâle, que le probant, comme nous l'appelons, donc le descendant ici dans lequel on cherche des mutations, était un mâle, ce qui veut dire que pour nous, l'ADN que l'on séquence est un ADN de la lignée germinale, ce sont des échantillons de sperme. Et je ne veux pas dire contre toute attente, mais de façon assez surprenante, donc vous voyez trois catégories de mutations. Comme on le fait toujours, le bleu est réservé aux mâles, le rouge est réservé aux femelles. Donc ici, vous avez les mutations que l'on trouve avec liaison complète dans cette génération-ci. Ce sont donc potentiellement des mutations qui sont apportées en effet par le spermatozoïde et l'oocyte. Donc c'est ce schéma classique où l'on retrouve dans ce pédigré-ci le nombre plus important de mutations dans les spermatozoïdes que dans les oocytes, donc le fameux alpha dont Molly nous a parlé. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une proportion, 32% des mutations étaient des mutations qui étaient survenues lors du développement de l'individu et qui n'ont pas été transmises directement à la descendance. Donc en fait, on observe directement une proportion importante de mutations qui n'ont pas eu lieu là où l'on s'y attendait a priori. Alors, forcément, quand on dit ça, en particulier aux généticiens humains, de façon tout à fait saine, ben, ils sont assez sceptiques. Et donc, en fait, il faut qu'on présente un certain nombre d'arguments qui plaident en faveur d'une interprétation correcte des résultats, qui sont entre autres, tiens, est-ce que vous reproduisez le ratio alpha dans ces mutations, alors qu'a priori, il n'est pas attendu. On s'attendrait à ce que ces mutations tardives aient lieu de façon équivalente sur les deux chromosomes, mais à la limite, le ratio ici, ce n'est pas significatif, mais était opposé au ratio attendu pour des mutations qui répondent au pattern classique. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais toute une série de choses, en fait, étaient conformes aux prédictions, dont le ratio allélique chez l'individu, on le détecte, mais en fait, qui est directement corrigé dans la descendance. Donc, ce ne sont pas des artefacts de séquençage. Et puis alors la façon dont la fréquence de transmission dans la génération suivante, ainsi que la force de liaison qui est corrélée avec le ratio allélique. Donc les choses semblaient se comporter d'une façon raisonnable. Donc la conclusion, c'est, dans le schéma habituel, du moins chez le bovin, ben, une proportion vraiment importante des mutations ne sont pas transmises par les gamètes, mais sont survenues lors du développement de cet individu. Alors on pourrait dire, ben, en génétique humaine, on étudie dans l'individu, le probant, on étudie de l'ADN somatique, de l'ADN de sang. Peut-être que cette propriété est une propriété qui est entièrement due au fait que nous avons séquencé de l'ADN de la lignée germinale. Donc nous sommes passés aux autres pédigrés qui sont où les probants sont des femelles, où le sang, où l'ADN est donc d'origine sanguine, et on observe un taux inférieur, mais néanmoins très détectable. Donc simplement pour résumer les choses, ben, dans ce cas-ci, 12% des mutations de novo étaient en fait des mutations qui étaient survenues lors du développement de cet organisme de sexe féminin. Bon. Donc, en fait, contrairement quelque part à nos attentes initiales, ce phénomène semble être un phénomène qui est relativement généralisé, relativement fréquent. Et on peut donc forcément se poser la question, qu'avons-nous perdu comme mutation en ayant imposé leur absence dans la lignée, dans la génération parentale? Donc, souvenez-vous, le schéma habituel, c'est un trio absence de mutations chez les parents présents dans la descendance. On montre, en étudiant la descendance, que le schéma de mosaïcisme est un schéma qui est fréquemment rencontré. Pourquoi ne le serait-il pas chez les parents? Quelle est la fréquence ou le nombre de mutations, la proportion des mutations que nous avons jetées à la poubelle en imposant ces conditions qui souvent sont dictées pour de bonnes raisons? Mais donc, dans quelle mesure, en fait, avons-nous masqué une partie de la réalité biologique? Alors ici, on peut le faire parce que les pédigrés le permettent. Donc, on a une génération supplémentaire qui nous permet d'exclure que la mutation soit présente chez les parents. Et on a, je vais vous le montrer ici, des demi-frères, demi-sœurs du probant qui vont nous permettre de faire la même étude de liaison génétique dans la génération qui, cette fois-ci, s'impose pour pouvoir différencier le schéma de mosaïcisme avec une mutation classique transmise au niveau de la génération précédente. Et donc, je vais vous épargner les détails techniques et expérimentaux et en arriver directement aux conclusions. Donc, en fait, dans cet organisme-là, si vous prenez un spermatozoïde et que vous y détectez des mutations, quelles sont la proportion de ces mutations qui étaient détectables, qui étaient mosaïques, un taux détectable chez le parent, et qui sont donc typiquement des mutations que l'on aurait jetée à la poubelle, si je puis dire, dans les études telles que réalisées jusqu'à présent. Alors, si c'est un spermatozoïde, notre estimation sur base de cette étude pilote est de l'ordre de 25%, qui est loin d'être négligeable. Et si vous faites la même chose au niveau des oocytes, c'est 50%. Donc, en fait, le constat pour nous était que le taux de mosaïcisme, enfin le mosaïcisme associé à des mutations des nouveaux, du moins chez ces bovins, est quelque chose qui est très, très, très généralisé. Alors, donc, je crois qu'il est utile au moins de se poser la question est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bovin spécifique ou non, parce que donc, ça a un impact direct sur le taux de récurrence, si je puis dire, de pathologie due à des mutations de novo dominantes dans les familles. Donc imaginez une famille qui a en fait un enfant qui souffre d'une pathologie dominante due à une mutation de novo. Ben, si vous vous mettez dans le schéma de raisonnement initial, vous pourriez éventuellement être amené à conclure que le risque pour les enfants suivants est négligeable, alors que si c'est ceci qui est d'application chez l'homme, eh bien, les choses peuvent être fort différentes. Donc voilà les pourcentages observés dans cette étude pilote par rapport à ces estimations, je l'admets, crues ou très approximatives de ce qu'on aurait pu attendre. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il y en a beaucoup plus que ce que nous attendions, et ce que cela suggère, c'est que les divisions cellulaires du développement précoce de l'embryon semblent être plus sensible au processus de mutation que les divisions qui suivent. Donc, en fait, pour avoir ces taux de mosaïcisme importants, ben, il faut immanquablement, je crois, envisager la possibilité que ce soit les divisions cellulaires, les premières, qui soient les plus sensibles aux mutations. Donc, une autre observation que nous avons faite, c'est que donc, quand vous avez quand un descendant a une mutation qui est par exemple détectée chez le parent je vais vous raconter l'histoire, ce sera plus simple. Donc en fait, vous imaginez les deux parents, un descendant hérite d'une mutation qui est mosaïque chez le père, par exemple. Donc, vous pouvez vous poser la question, tiens, à quelle fréquence dois-je m'attendre à retrouver cette même mutation dans des demi-frères, dans des apparentés de l'individu dans lequel je l'ai détecté? Et si vous vous limitez au schéma triangulaire, eh bien, en fait, vous ne vous attendez jamais à l'avoir dans plus que 50% des frères et sœurs, parce qu'elle doit être apparue au moins après la première division, et déjà alors, il y a une moitié de notre triangle qui est dépourvue de la mutation. Donc on ne s'attend pas à avoir des partages qui dépassent 50%, et au contraire, on s'attend en fait à avoir des taux de partage relativement faibles. A priori, lorsqu'on suit plusieurs mutations simultanément, donc quand au lieu d'envisager une mutation de ce type, on en prend plusieurs, à quel taux sont-elles partagées par des frères et sœurs en bloc? Et la caractéristique en fait du partage de ces de mutations de ce type, c'est que le partage est beaucoup plus élevé que ce qu'on attend par hasard sous ce modèle hypothétique, je vous l'admets, relativement simple. Alors, donc, ce que nous avons fait, c'est nous avons essayé de simuler la lignée germinale de la façon la plus exacte possible. Je suis désolé, en fait, du temps de latence. Je vais essayer de nous extirper de cette dia capricieuse. Et donc nous sommes allés lire des bouquins d'embryologie et donc nous avons essayé de quantifier quelque part le nombre de cellules qui contribuent à la lignée germinale au cours du développement en tenant compte des différents goulots d'étranglement que cette lignée germinale subit lors du développement. Je ne rentre pas dans le détail, mais sans avoir une vision exacte de l'ontogénie, si je puis dire, de la lignée germinale chez les bovins. Donc on essaye de s'en rapprocher le plus possible. Et puis en fait, on peut, étant donné la généalogie connue, étant donné la forme de l'arbre généalogique, on peut essayer de simuler des mutations donnant le nombre de mutations qu'on observe dans nos données. Et on peut faire ça sous différentes hypothèses quant au taux de mutation, est-il uniforme ou non, quant à l'apparenté des cellules qui sont les progénitrices de la lignée germinale, etc. Et donc on peut essayer d'affiner le modèle de telle sorte qu'en fait qu'il colle le mieux aux données observées. Donc ça, c'est simplement des schémas qui tentent de montrer sous différents scénarios dans quelle mesure les observations collent aux prédictions. Et de façon immanquable, en fait, on arrive à la conclusion que, un, le taux de mutation est vraisemblablement de l'ordre de 10 à 20 fois plus élevé lors des 4 premières divisions cellulaires, et les précurseurs de la lignée germinale sont étroitement apparentés. Et donc, en combinant ces deux paramètres, j'ai envie de dire, de l'arbre généalogique, on parvient à coller relativement bien avec les observations. Alors, autre observation, quand on sépare maintenant les mutations qui sont les mutations qui sont apparues tôt dans le développement et qui sont caractérisées par du mosaïcisme, des mutations qui ne le sont pas, qui sont donc apparues plus tard lors du développement, eh bien en fait on voit un profil mutagénique, si je puis dire, qui est très différent. Donc les 4 pics que vous voyez ici sont les mutations qui résultent d'une désamination oxydative d'une cytosine méthylée dont Molly nous a parlé et qui on s'attend en fait à ce qu'elles représentent une fraction importante des mutations, et c'est de façon flagrante le cas quand on se limite aux mutations qui sont des mutations tardives qui ne sont pas mosaïques. Alors que quand on... Donc, autre observation, c'est qu'en particulier de par la contribution de cette catégorie importante, le taux de transition transversion, qui est presque un test de qualité de mutation détectée à l'heure actuelle, il faut qu'il soit de l'ordre de 2 pour que les reviewers croient vos résultats. Et donc, pour cette catégorie de mutations-là, tout semble coller, alors qu'en fait, quand on regarde les mutations précoces, la signature correspondant au CPG est beaucoup moins prononcée, en fait, elle n'est pas significative, et par contre, on retrouve en fait, de façon particulièrement abondante, les mutations dont Molly nous a parlé tout à l'heure, ce sont ces transversions CAA. Et le résultat des courses, c'est que le ratio transition transversion ici, il est à peine plus élevé que 1. Donc, ce que nous ne comprenons pas encore, c'est que quand on prend toutes nos mutations ensemble et qu'on compare les différentes catégories de mutations obtenues avec les différents types de polymorphisme dans la population, la théorie de base de la génétique des populations nous dit que ces fréquences devaient être les mêmes, puisque le polymorphisme résulte de ces mutations, et bien qu'en fait, nous avons un excès de ces mutations CA par rapport au polymorphisme, ce qui pourrait indiquer que c'est quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire, que ça n'a pas encore pu se traduire par des spectres de fréquences dans le polymorphisme. Alors vous comprendrez directement pourquoi je raconte ça. Alors, sans avoir une étude qui soit totalement aboutie, ben, je vais vous raconter un certain nombre de choses que nous avons obtenues en analysant le dataset complet qui nous amène à peu près 7500 mutations. Donc ça, pour Molly, en fait, des estimations du taux de mutation actualisé qui nous donne le alpha correspondant à ce qu'elle a montré dans sa présentation. Ce que nous constatons, c'est que cette abondance de mutations mosaïques est confirmée dans le dataset complet. Donc ce n'est pas comme si nous avions une anomalie dans les premières quelques familles que nous avons étudiées. Donc nous trouvons des proportions de mutations mosaïques dans l'étude complète, tout à fait comparables à celles que nous avons obtenues dans l'étude initiale. Ce qu'on constate également, c'est que le fameux rapport alpha, eh bien, il est de l'ordre de 2,6 à 1 quand on se concentre sur des mutations qui sont des mutations non mosaïques, qui ont eu lieu soit chez le père, sire, soit chez la mère, dame. Et donc on voit ce qu'on attend quelque part. Mais par contre, quand on regarde des mutations mosaïques, qui sont des mutations qui ont eu probablement lieu lors de ces premières quatre divisions, eh bien, en fait, on ne voit pas de différence dans la fréquence de ces mutations, dans la lignée germinale mâle et femelle, ce qui est quelque part ce qu'on attend. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est voilà des moyennes de mutations telles qu'elles sont rencontrées, par exemple, dans des gamètes bovins typiques, mais on peut s'intéresser maintenant à cette variation qui existe dans la population. Ça va être essayer de comprendre, tiens, est-ce que tous les individus sont égaux par rapport à la mutation? Est-ce qu'il y a des différences? Et si oui, quelles sont les origines de ces différences? Alors, vous voyez ici la gamme de valeurs qui sont observées d'un parent à l'autre, et nous allons nous focaliser sur le coefficient de variation. Donc, ce qu'on constate, c'est que le coefficient de variation est deux fois plus élevé pour les mutations précoces mosaïques qu'il ne l'est pour les mutations tardives. Donc, on voit en fait qu'il y a plus de variation d'un individu à l'autre quand on se concentre, quand on distingue des mutations qui ont lieu tôt dans le développement par rapport à celles qui ont lieu plus tard dans le développement. Et ça nous permet de faire, avant de faire de la génétique, des études de répétabilité. Avons-nous des raisons de penser que les individus diffèrent quant au taux de mutation, par exemple, mosaïque, simplement en regardant s'il y a une corrélation entre ce nombre de mutations, si je les mesure dans deux gamètes qui proviennent de cet individu. Donc, un premier individu me génère un gamète avec beaucoup de mutations par rapport à un autre individu. Si je collecte une répétition de cette expérience, est-ce que les chiffres vont aller dans le même sens? Et donc, ce qu'on constate, je vais vous montrer les résultats ici, c'est qu'en fait, il n'y a a priori aucune mutation détectable avec l'échantillon disponible quand on étudie les mutations non mosaïques, donc ce sont les mutations tardives, alors qu'en fait, on a un signal qui semble être, j'ai envie de dire, très prometteur quand on étudie les mutations qui sont les mutations précoces. Donc c'est comme s'il y avait un effet individuel, et on peut se poser la question, est-ce que cet effet individuel est influencé par des gènes, oui ou non? Donc en fait, ce qu'on vous montre simplement ici, c'est les quatre types de mutations, donc des mutations non mosaïques tardives chez les mâles, des mutations non mosaïques donc tardives chez les femelles, et les mutations précoces chez les femelles et les mâles. Et en fait, on a toute une série d'individus qui ont contribué des gamètes. Donc chaque position sur l'axe des X est un individu, éventuellement avec plusieurs observations s'il y a plusieurs gamètes. Et donc en fait, on constate ici qu'on a un certain nombre, parfois même, d'individus avec des taux de mutation extrêmes et pour lesquels il y a une répétabilité forte. Alors, qu'est-ce qui est responsable de cette variation interindividuelle? Et on est loin d'avoir abouti dans ces études, probablement que la taille des échantillons disponibles est insuffisante, mais on pouvait au moins se poser la question, certaines questions, dont l'effet des technologies de la reproduction. Il se fait que les bovins, à l'heure actuelle, il y en a peu qui sont issus d'amour et d'eau claire. En général, on leur impose des technologies de la reproduction relativement avancées, qui sont au minimum de l'insémination artificielle, qui sont régulièrement du transfert d'embryons qui suit de ce qu'on appelle de l'ovulation multiple, donc on stimule l'ovulation, et de plus en plus dans des animaux d'élite, c'est en fait de la maturation in vitro d'oocytes suivie de fécondation in vitro. Et donc ce qu'on constate, c'est que le taux de mutation précoce, donc pas les mutations tardives, mais le taux de mutation précoce est très significativement affectée par la technologie de la reproduction utilisée. Donc, dans nos analyses, au plus on utilise des méthodes qui impliquent une manipulation prolongée des oocytes, au plus, en fait, on voit s'accumuler des mutations dans l'individu correspondant. Les valeurs ne sont pas, c'est très significatif, mais les valeurs ne sont pas extrêmes. On double le nombre de mutations. Ce n'est pas comme si on les décuplait, elles ne sont pas multipliées par 10 ou par 100. Donc, en fait, on passe, disons, de quelques dizaines de mutations au double. Ça peut effrayer en médecine humaine. En fait, ça réjouit plutôt en agriculture où la réponse à la sélection est limitée éventuellement par l'injection de nouvelles mutations. Et donc on constate là qu'il y a un facteur d'environnement qui semble avoir un impact et on se dit que c'est quand même une information qui est importante en fait à mettre en évidence. Alors à part ça, on se dit est-ce qu'il y a de la génétique ? Et c'est certainement un caractère complexe. Nous n'avons pas la possibilité de faire des études d'héritabilité avec le nombre d'observations que nous avons. Mais ce que l'on fait pour l'instant, c'est se concentrer sur un certain nombre d'individus qui ont des valeurs extrêmes. Et ça, il y en a. Donc en fait, on vous montre ici un individu dont le taux de mutation, pour les mutations qui apparaissent précocement dans le développement, est plus de 10 fois supérieur à la moyenne. Et en plus, typiquement, ces individus avec des valeurs extrêmes ont des profils, des signatures de mutation qui sont distinctes de ce que l'on rencontre en moyenne. Donc ici, par exemple, un taux de mutation de C à T indépendant du dinucléotide CPG anormalement élevé, presque 10 fois aussi élevé que chez les autres individus. Et on cherche pour savoir si éventuellement ces individus ne seraient pas caractérisés par des génotypes particuliers au niveau, entre autres, de gènes qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN. Et donc on a toute une série d'individus comme ceux-là qui ont des taux de mutation extrêmes associés à des signatures de mutation extrêmes. Voilà. Donc en résumé, quelque part, je crois que ces études chez les bovins, elles valent évidemment ce qu'elles valent, mais je crois qu'elles attirent l'attention sur la fréquence du phénomène de mosaïcisme et elle nous montre que des technologies de la reproduction ne sont pas neutres par rapport au taux de mutation. Donc ce pedigree est utilisé pour faire un certain nombre de choses et je mentionne pour ceux d'entre vous que cela pourrait intéresser la fréquence de mobilisation de transposons. Donc ici nous avons parlé uniquement de mutations au sens classique qui sont typiquement des substitutions, des mutations ponctuelles. Mais comme vous le savez, notre génome est parsemé d'éléments mobiles dont certaines familles sont encore en activité. Peut-on détecter des éléments de mobilisation de ces transposons ? Et donc, en fait, on regarde, quand on étudie ces trios et ces familles, on regarde si éventuellement on voit des nouvelles insertions de transposons. Et il se fait qu'il y a une famille chez les bovins d'éléments qu'on appelle des éléments LTR, ce sont en fait des éléments transposables qui ressemblent à des rétrovirus, et nous avions trouvé en fait des mutations qui étaient dues à l'insertion dans certaines familles, dans certains gènes, donc on avait trouvé des pathologies génétiques qui étaient dues à des phénomènes de transposition de cette famille. Et on voit qu'en fait cette famille dont on sait qu'elle est toujours active puisqu'il y a des anomalies génétiques qui apparaissent suite à cette mobilisation. Donc, en fait, on peut étudier cette famille d'éléments transposables dans nos données familiales. Et donc, on a été assez surpris de l'observation suivante. Donc, cette famille bouge encore en effet. Et donc, nous pouvons l'affirmer parce que nous trouvons 5 mobilisations. Mais là, ce qui est étonnant, c'est qu'on étudie 300 gamètes. Or, en fait, quand on regarde où ont lieu ces 5 événements, eh bien, pour 3 des 5 événements, c'est en fait le même individu ce sont des gamètes du même individu qui subissent la transposition. Et plus que ça, deux des trois éléments sont en fait des mobilisations qui ont lieu dans le même gamète. Et donc, ça veut dire qu'il y a une variation interindividuelle forte en termes de mobilisation de ces transposons. Et donc, forcément, on peut se poser la question de l'origine. Donc, qu'est-ce qui est responsable de cette mobilisation individu spécifique excessive, j'ai envie de dire. Donc, en résumé, et j'en terminerai là, donc le phénomène de mosaïcisme dans la lignée germinale est, au moins chez les bovins, étonnamment fréquent. Donc, nous observons une variation interindividuelle forte avec des individus extrêmes en termes de mutation, mais ça affecte en particulier les mutations précoces. Donc, le coefficient de variation est plus important pour les mutations précoces. Pour lequel donc, on observe une répétabilité importante, ce qui semble indiquer donc, qu'il y a des effets qui caractérisent les individus. Alors, nous ne savons pas encore quels sont les facteurs qui déterminent cette répétabilité, mais une partie au moins pourrait être due à ce facteur d'environnement que sont les technologies de la reproduction, qui semblent clairement avoir un effet sur le taux de mutation. Et voilà, j'en resterai là.